Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Benoît Feit au micro. Il y a près de 15 ans, en septembre 2000, les Nations Unies annonçaient la naissance d'un programme de développement intitulé « Les objectifs du millénaire ». Ce programme ambitionnait alors d'éliminer la pauvreté et la faim dans le monde, d'assurer l'éducation primaire pour tous et en particulier pour les filles, de promouvoir l'égalité des sexes, de réduire la mortalité infantile, d'améliorer la santé maternelle, de combattre des maladies mortelles comme le sida et le paludisme notamment, de préserver l'environnement et améliorer l'accès à l'eau potable, et enfin de mettre en œuvre un partenariat mondial pour le développement. En septembre prochain, les Nations Unies se réuniront à nouveau à New York pour évaluer le travail réalisé au cours de ces 15 dernières années. Objectif atteint ou pas ? C'est la question que nous allons poser à nos invités. Pierre Galland, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes actuellement le président de la Fédération Humaniste Européenne, mais vous avez aussi une longue expérience dans le domaine des ONG et du développement, de la coopération au développement. Ancien président du CNCD, secrétaire général d'Oxfam, président du comité de liaison des ONG avec l'Union Européenne, et j'en passe. Francine Mellström, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes administratrice du Centre Tricontinental, le CETRI, une ONG d'études sur le développement et les rapports Nord-Sud. Vous êtes également membre du Conseil international du Forum social mondial et coordinatrice du réseau mondial Global Social Justice. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Pierre Galland, avant toute chose, ces objectifs du millénaire que je viens de rappeler, que je viens de citer, lorsqu'ils ont été fixés par les Nations Unies en l'an 2000, étaient-ils selon vous à l'époque ambitieux, très ambitieux ou tout simplement réalistes ?
Il faut savoir que avant même de définir les objectifs pour le millénium, l'ONU avait appelé la communauté internationale à se réunir à plusieurs reprises pour essayer de fixer quelles devaient être les priorités du développement mondial pour le siècle à venir. Ils ont fait ça durant toute la dernière décennie du siècle passé, et ça a commencé à Rio en 1992 avec un grand rassemblement sur l'environnement. Les ONG ont été présentes, actives à ce sommet, et déjà là, on pouvait être un peu effrayé parce que au moment de la conclusion, alors qu'on avait fait un travail extraordinaire d'identification des priorités, comment avancer, etc. La Banque mondiale est arrivée et les Américains derrière pour dire « Écoutez, tout ça c'est très bien, mais c'est nous qui allons nous en occuper. » Nous qui connaissions la Banque mondiale déjà à l'époque, nous avons compris à ce moment-là que ce serait très difficile. Et puis il y a eu Vienne sur les droits de l'homme, il y a eu Le Caire sur les populations, il y a eu après ça encore en 95 les femmes à Pékin, il y a eu l'économie et le social à Copenhague, il y a eu l'habitat. Enfin, on a fait tout un travail énorme et je dois dire, je reconnais que l'ONU a joué à ce moment-là un rôle déterminant pour essayer de faire un inventaire. C'est cet inventaire qui a été porté à ce moment-là pour dire, eh bien maintenant que fait-on à ce début du millénaire.
Et c'était une déclaration de bonne intention à l'époque, ou est-ce que sur le fond il y avait une véritable volonté d'aboutir?
Sur le fond, il y avait en tout cas un programme bien défini, mais déjà avec des ambitions limitées. Par exemple, sur l'extrême pauvreté, l'ambition c'était d'éliminer la moitié de l'extrême pauvreté en déant les 15 ans. Il y avait donc des objectifs, les 7 objectifs du millénaire qui ont été fixés, comme vous l'avez dit, mais il y avait aussi un objectif chiffré. Et les économistes avaient à ce moment-là défini que au minimum, il fallait qu'on consacre 60 milliards de dollars annuellement pour aboutir à ce qu'on puisse mettre en œuvre de manière réaliste ces objectifs. Et c'est là qu'on voit déjà la tromperie. C'est que jamais on a réuni ces fonds. 60 milliards fois 15, ça fait 900 milliards. 900 milliards, on ne les a pas réunis. Non seulement on ne les a pas réunis, mais l'aide au développement pendant ce temps-là, elle a eu une tendance structurelle à se réduire. D'une part, elle est tombée au seuil où elle était en 1990, et par ailleurs, elle a changé de qualité. C'est-à-dire qu'on est allé vers l'humanitaire d'urgence plutôt que vers le développement. Pas étonnant dans ces conditions-là que les objectifs même du millénaire qui étaient louables et qui avaient été chiffrés, etc., eh bien, on peut faire le bilan, on ne les a pas atteints parce qu'on n'a pas voulu y mettre l'effort. Et je donne une petite comparaison. Pendant le même temps, en 2008, on est face à la crise bancaire internationale. Les États-Unis et les Européens parviennent en 8 mois à réunir 4 000 milliards de dollars. 4 000 milliards pour sauver les banques, 900 milliards pour sauver le monde. Eh bien, on a choisi de sauver les banques.
Francine Malmström, les Nations Unies évalueront bientôt le travail accompli au cours de ces 15 dernières années. Pierre Galland vient de le rappeler, visiblement, ces objectifs n'auraient pas été atteints. Toujours est-il qu'il va falloir les évaluer. Mais alors, les évaluer sur quelle base, sur base de quelles données et des données récoltées par qui ?
Mais écoutez, pour compléter ce que vient de dire Pierre, je pense qu'il y a en fait deux logiques qui se sont heurtées. Il y a la logique ONU, avec toute la conférence dont Pierre a parlé, notamment aussi un sommet social à Copenhague en 1995, avec des objectifs bien clairs, réduire la pauvreté, promouvoir l'emploi et l'intégration sociale. En même temps, ou un peu avant, même en 1990, c'est la Banque mondiale qui a mis la pauvreté à l'ordre du jour international. À ce moment-là, on n'avait pas de statistiques sur la pauvreté mondiale. Pas de statistiques sur la pauvreté mondiale. La Banque mondiale a commencé à ce moment-là. Il y a eu un travail énorme tout au long des années 90. Maintenant, la méthodologie de la Banque mondiale, tout d'abord, elle n'est pas transparente. Elle a commencé à travailler avec des estimations, des approximations, etc., etc. Et tout au long de la période de 1990 jusqu'à aujourd'hui, elle a tout le temps ajusté ses statistiques.
Est-ce qu'il existe des statistiques tenues par une autre organisation que la Banque mondiale ?
Il n'y en a pas.
Donc on dépend uniquement des chiffres de la Banque mondiale pour estimer l'état de la pauvreté dans le monde aujourd'hui ?
Tout à fait. Il y a bien entendu des statistiques au niveau national, dans tous les pays. Plus ou moins, pas dans tous les pays, mais bon, plus ou moins. Mais c'est la Banque mondiale qui a seule à faire les statistiques sur la pauvreté mondiale. Car il faut savoir que pour passer du national au mondial, il faut bien entendu des taux de conversion pour tenir compte des différences de pouvoir d'achat. Et c'est justement là-dedans qu'il y a, disons, des mystères.
Vous avez le sentiment qu'on va donc estimer les réalisations de ces 15 dernières années en termes de lutte contre la pauvreté, donc dans le cadre des objectifs du millénaire, sur base de données qui ne sont donc pas fiables. Donc ça veut dire que les conclusions ne seront pas fiables non plus ?
Mais écoutez, je pense que la tendance est claire. La tendance est claire dans la mesure où, oui, on a atteint les objectifs du millénaire. La pauvreté a été réduite de plus de la moitié.
Au niveau global ?
Au niveau mondial. Seulement, quand on regarde la géographie, on voit que cette réduction vient de la Chine, vient aussi de l'Inde, vient un tout petit peu de l'Amérique latine. Et puis en Afrique subsaharienne, rien n'a changé. Rien n'a changé. Et il faut souligner, je pense, aussi pour compléter ce qu'a dit Pierre, que ce sont précisément les pays qui souffrent toujours des politiques imposé par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.
Est-ce que la Banque mondiale, dans ses conclusions, va souligner cette réalité, selon vous, au mois de septembre ? Ou est-ce qu'on va plutôt tenter de noyer le poisson, de noyer les chiffres les chiffres ?
Mais écoutez, le sommet est un sommet de l'ONU. À l'ONU, on sait parfaitement bien ce qui se passe. Bien entendu qu'on ne va pas souligner, écoutez, c'est la faute de la Banque mondiale, etc., etc. Et la Banque mondiale va sortir ses chiffres, qui sont très positifs, au niveau mondial. Et voilà.
Je suis d'accord en partie avec Francine, je vais nuancer quand même. Je vais dire par exemple, aujourd'hui, d'après quand même les grandes ONG, on s'aperçoit que dans le continent africain dont on parle, un enfant sur trois n'est pas enregistré sur l'état civil. Donc les statistiques, pour dire dans quelle statistique on est. Deux, on s'aperçoit que la FAO a modifié son calcul de la pauvreté qui fait qu'effectivement on a réduit la pauvreté. Mais dans les faits, ce que je voudrais renforcer, ce que disait Francine, c'est que ceux qui ont réussi à permettre qu'il y ait des améliorations dans les statistiques de l'ONU, ce sont les pays qui ont eux-mêmes un État qui a repris des responsabilités.
Vous pensez à quel pays, par exemple ?
Je pense, par exemple, à l'Équateur, je pense à la Bolivie, je pense au Venezuela, au Brésil, je pense aussi à la Chine. À la Chine, avec, là, on en parlera plus tard, puisqu'on veut abandonner les objectifs du millénaire pour passer sur les objectifs du développement durable, c'est qu'il faut se poser la question si la Chine n'est pas en même temps en train de faire des performances sur le plan permettre que plus d'enfants aillent à l'école, qui est moins sur le plan santé, font des progrès, sur le plan mortalité, font des progrès, mais sur le plan environnemental, c'est une catastrophe. Donc à quel prix est-ce qu'on fait ce type de développement ? Donc il y a non seulement les statistiques, il y a le fait que ceux qui ont permis à l'ONU de dire « Ah, il y a mieux », c'est parce qu'ils l'ont fait eux-mêmes. C'est là où l'aide au développement a été la plus grande, c'est-à-dire vers l'Afrique, c'est là qu'on n'a pas de résultats. Et ça, il faudrait quand même le dire à un moment donné et se poser la question du pourquoi. Quant aux objectifs, par exemple, on dit « les petites filles vont à l'école ». Oui, mais on s'aperçoit qu'à partir de l'âge de 3 ans, on les retire de l'école. Pourquoi ?
Troisième primaire, vous voulez dire.
À partir de la troisième primaire, elles sortent de l'école parce qu'à ce moment-là, elles vont travailler ou elles vont être préparées pour le mariage.
Ce qui veut dire que dans les statistiques, on signale qu'elles fréquentent l'école primaire, mais en fin de compte, pas suffisamment pour qu'il puisse y avoir un réel changement structurel de la société.
Pour que ça serve pour le changement structurel. Et puis, ce qui est très grave, c'est qu'un des objectifs, le 7, qui était l'objectif développement durable, lutte contre la pollution, les pesticides, etc., etc. Là, c'est un échec retentissant. Ils explosent de 50%. En fait, aujourd'hui, les gaz, émissions de gaz à effet de serre, c'est 50% en plus. Et ça, c'est quand même un questionnement qui est extrêmement important et qui met en cause une partie de tout ce qui a été fait pendant ces 15 années.
Bien, je vous propose d'écouter, de faire une petite pause musicale en écoutant justement un artiste africain, Tiken Jafakoli, originaire de la Côte d'Ivoire. Vous parliez de l'Afrique, il a lui-même une certaine analyse que je vous propose d'écouter. On se retrouve juste après pour la seconde partie de l'émission.
Afrique esclavagisée, colonisée, martyrisée, dévalisée.
Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric.
Les montagnes de fric volées par la France-Afrique. Les tyrans complices, les gars dans les comptes en Suisse. Le poulevin de Sirvin, les crédits des débits, aïe aïe.
Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric.
Afrique mal dirigée, tyrannisée, manipulée, dévaluée.
Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric.
La solde des mercenaires et les armes des tortionnaires. Des milliards de francs volés à des pays souffrants. Les coups de fouet, doux fouet, les sales sous des sassous, ya ya ya.
Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric.
L'Afrique doit encore, après 400 ans d'esclavage, plusieurs années de travaux forcés, des milliers d'entreprises qui pillent.
Ainsi dans l'Afrique, quoi du fric.
Les complots du FMI et les blagues de la Banque mondiale, des milliards d'euros volés par des bandes d'escrocs, les fonds comptent de compte et les sales sous de sa soupe.
Ainsi dans l'Afrique, quoi du fric.
Les montagnes de fric volées par la France-Afrique. Les présidents africains sont complices de ce trafic. Les coups fouet, doux fouet, les bombos de bongo, ya ya ya.
Ainsi dans l'Afrique, quoi du fric. 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 Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric.
Est-ce que l'Afrique doit encore?
Non.
Est-ce que l'Afrique doit encore?
Non.
Ainsi dans l'Afrique, pas du fric. 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 Ainsi dans l'Afrique, pas du fric.
Ainsi donc, l'Afrique doit du fric, nous dit Tikenja Fakoli, Pierre Galland. Effectivement, le scandale de la dette est aussi à tenir en compte quand on parle de réduction de la pauvreté, des rapports Nord-Sud.
Bien sûr, on sait ce qu'ont été les dégâts causés par les ajustements structurels imposés par la Banque mondiale à tous ces pays africains qui ont accru le taux de pauvreté, qui ont déconstruit les États et posé à certains moments, je le dis, d'extrêmement graves tensions allant jusqu'à un génocide, celui du Rwanda. À l'époque, je l'ai démontré, chiffre en main. Et aujourd'hui, l'Afrique, pour chaque euro en fait qui est accordé à l'Afrique sous forme d'investissement ou de don, eh bien, elle en rembourse deux.
Un chiffre qui est donc intéressant à rappeler. Pierre Galland, les Nations Unies se réuniront donc en septembre prochain à New York pour évaluer les résultats obtenus après 15 ans de politique de développement basée sur ces fameux objectifs du millénaire dont nous parlons aujourd'hui. On peut s'attendre, selon vous, à un changement de méthodologie après ce bilan en septembre ?
Ah, tout à fait. Donc, il est déjà proposé qu'on va aller vers maintenant deux moments importants, à Addis Abeba au mois de juillet, au mois de septembre à l'ONU. Addis Abeba, c'est pour trouver des financements. Parce qu'on veut aujourd'hui se fixer comme objectif, non plus des objectifs qui seraient uniquement réservés aux pays du Sud, mais on a dit, bon, ben, c'est toute la planète qui est en cause aujourd'hui. Donc, l'objectif, ce serait de créer un partenariat mondial d'objectifs communs pour le développement durable. ODD, c'est plus OMD, c'est ODD. Et ça, c'est l'objectif du sommet prochain à New York. Et par ailleurs, d'autres doivent chercher de l'argent. Alors, on se dit, ah, c'est bien, ils vont chercher de l'argent cette fois. Et comment vont-ils chercher de l'argent? Eh bien, ils sont occupés à travailler. M. Ban Ki-moon a dit comment ? Eh bien, on va appeler le privé à venir s'occuper du développement. Et donc, il a fait un grand discours récemment pour dire « il faut que les entreprises s'occupent du développement ». Moi, j'ai observé les entreprises ces 40 dernières années dans ces pays-là, et ce qu'elles ont fait, c'est en général piller et faire du sous-développement pour l'ensemble de ces pays. Donc, on peut se demander comment on va établir, sur quels critères on va permettre cette contribution des entreprises, comment on va les sanctionner si elles font des bêtises, ça n'existe pas, il n'y a pas de cour pénale pour les multinationales, ou comment est-ce qu'on va les encourager, les inciter à aller dans le bon sens. Tout ça n'est pas encore mis au point, la seule chose qu'on sait, c'est que l'argent qui va être mis à disposition, eh bien, les experts ont dit, c'est pour favoriser l'accès au marché de ces pays-là. Ben, l'accès au marché, moi je me rappelle très bien cette phrase de Nyerere qui disait, vous savez quand on demande à un pays comme la Tanzanie qui est un pays pauvre d'avoir accès au marché, je vais vous dire ce que ça représente. C'est comme si je vous demande à vous, monsieur Fate, de monter sur le ring, je vous donne des gants de boxe, je vous donne la noix, le dentier, etc. Et vous montez sur le ring et en face de vous, vous avez Cassius Clay. Eh bien vous n'avez aucune chance de résister au moindre coup que va vous donner l'adversaire. C'est ce qui est en train de se passer et c'est contre ça aussi qu'alors on doit travailler. On doit permettre aux populations locales de s'organiser. Et les campagnes qui ont été faites aujourd'hui par les syndicats, par les travailleurs, par les ONG sur le travail décent me paraît être un axe extrêmement positif et important. Et certains pays aujourd'hui qui ont non seulement repris du pouvoir en tant qu'État, aujourd'hui ne se gênent pas pour utiliser les instruments de la justice internationale pour essayer de faire valoir leurs droits. À l'époque, Allende est mort pour avoir osé demander qu'on déprivatise les mines de cuivre et qu'on les rende aux Chiliens pour leur permettre leur développement. Aujourd'hui, eh bien, Evo Morales, en Bolivie, il est en train de faire cela. Le Correa, en Équateur, il fait un procès contre Chevron, parce que Chevron est en train de piller les ressources naturelles et de démolir l'environnement au Pérou. Donc il y a là il y a là une capacité de petits peuples de se mouvoir vers d'autres propositions. À nous, la société civile, comme on l'appelle, à nous, les gouvernements qui auraient une ambition de participer au développement, de faire des choix qui soient des choix qui permettent à ces peuples de s'émanciper.
Francine Maelström, en fin de compte, la pauvreté à l'échelle mondiale et même au niveau local a souvent des causes plutôt structurelles.
Bah, tout à fait structurel. Et aussi longtemps qu'on ne s'attaque pas à ces causes structurelles, rien ne va changer. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que Pierre vient de dire, car aujourd'hui, les gouvernements n'ont pas d'espace politique pour mener leur propre politique. Et aussi longtemps qu'ils ne peuvent pas le faire, parce qu'aujourd'hui, ils sont, comme on dit en anglais, captured, capturés par les sociétés multinationales, aussi longtemps que ça ne change pas, rien ne va changer au niveau de la pauvreté. Car il faut bien savoir, la pauvreté n'est pas un problème des pauvres. C'est un problème de l'ensemble de la société. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est un problème de l'ensemble de la communauté internationale. On ne peut jamais réduire la pauvreté si on ne regarde que les pauvres. Et donc, il faut s'attaquer aux paradis fiscaux, il faut s'attaquer aux flux illicites des capitaux. Pierre disait, il y a 2 dollars qui sortent pour chaque dollar qui entre pour le remboursement de la dette, mais il y a 10 dollars qui sortent pour chaque dollar qui entre sous forme de flux illicites des capitaux. Donc c'est un scandale énorme. Et on ne peut jamais réduire la pauvreté, bien évidemment, si on ne s'attaque pas à ces problèmes-là.
Et la justice fiscale à l'échelle de la planète, ça ne fait pas partie des priorités aujourd'hui
bien
étudiées
par les Nations
Unies, notamment.
Bien évidemment, ça fait partie des priorités. C'est un point qui va être discuté à Addis Abeba au mois de juillet. Si on va réussir à obtenir quelque chose, c'est une autre question. Mais il faut absolument une fiscalité internationale, un système de redistribution mondiale des revenus. Cela me semble inévitable si on veut réellement avoir un monde de paix, tout d'abord, et ensuite un monde de justice sociale.
C'est réaliste aujourd'hui de prôner ou d'espérer obtenir une justice fiscale à l'échelle de la planète ?
Écoutez, ce n'est peut-être pas réaliste à court terme, mais c'est une utopie et il faut absolument travailler à cela.
Qu'est-ce qui rend cet objectif utopique, selon vous ?
Parce qu'il y a des États forts, puissants, pour ne pas les nommer les États-Unis ou le Royaume-Uni, qui sont absolument contre.
Pour quelle raison ?
Pour leurs propres intérêts. C'est la City de Londres ne va jamais accepter.
Ce ne sont donc pas des États, parce que l'intérêt d'un État, c'est d'avoir de l'argent dans ses caisses.
On ne peut plus faire cette distinction. On ne peut plus faire cette distinction. Le gouvernement, c'est tout à fait à 100% lié aux intérêts de la City de Londres, la même chose à Wall Street et la même chose dans la plupart des États.
Pierre Galland, c'est un peu ce défaitisme-là qu'il faut, qui donne
le
là.
Non, c'est pas un défaitisme.
Non, je ne pense pas que ce soit du défaitisme. Je crois que ce que dit Francine, c'est mettre les pistes, les axes sur lesquels on doit travailler si on veut arriver à modifier ce rapport de force internationale.
Tout à fait.
Et il y en a un qui est parfaitement intéressant. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, quand on voit le monde rural avec Via Campesina, ces gens qui ont fait un travail exceptionnel à travers le Forum social mondial, à travers une série de liaisons internationales des paysanneries, appuyées par des gens brillants. Je vais citer chez nous Olivier de Schutter qui a fait un travail comme expert des Nations Unies, ou Jean Ziegler, qui ont tous les deux tracé des lignes. Eh bien aujourd'hui, là, les citoyens, le citoyen de chez nous peut s'associer parce qu'on doit changer complètement nos manières de consommer. Et quand ce changement de manière de consommer, c'est s'intéresser à ce que font les multinationales dans le monde, c'est s'intéresser à la manière dont se fait la distribution dans le monde, c'est s'intéresser à ce qu'on met dans notre assiette, sachant que ce qu'on met dans notre assiette provoque un gâchis énorme pour l'ensemble de la planète et que rien qu'avec ce qu'on met dans notre assiette aujourd'hui et ce qu'on jette, eh bien, on peut nourrir déjà aujourd'hui, disait de Schutter, 9 milliards d'habitants sur la planète. Donc nous n'avons pas d'excuses. Et chaque citoyen peut s'engager sur cette voie-là et comprendre quels sont, à partir de là, les mécanismes internationaux qu'il faut modifier.
Francine Maelström, vous êtes, je le rappelle, coordinatrice du réseau mondial Global Social Justice, également membre du Conseil international du Forum social mondial. Toutes ces questions, ce raisonnement que vient de développer Pierre Galland et vous précédemment, c'est justement au cœur du travail réalisé par ces différentes instances où vous siégez.
Tout à fait. Au Forum social mondial, on essaie de faire converger un grand nombre de mouvements sociaux vers ces objectifs. Le réseau que je coordonne, Global Social Justice, essaie de mettre en avant l'importance des politiques sociales et notamment une protection sociale aujourd'hui universelle, transformatrice. C'est à cela que nous travaillons. C'est essentiel pour arriver à plus de justice sociale.
Quand on regarde le travail réalisé par le Forum social mondial, on a parfois de l'extérieur le sentiment que le mouvement s'essouffle. Est-ce que c'est votre sentiment ?
Mais écoutez, il y a pas mal de problèmes au sein du Forum social mondial, ça c'est sûr. Mais en même temps, on voit tout de même qu'il y a toujours une dynamique très importante et qui est vraiment très très importante, surtout au niveau régional. Quand on se réunit au Brésil, c'est au niveau de l'Amérique latine. Quand on se réunit à Tunis, c'est au niveau de l'Afrique et du Maghreb. Donc il y a une dynamique réelle qu'on sous-estime, je pense.
Francine Malmström, Pierre Galland, merci à tous les deux de m'aider à terminer cette partie de l'émission sur une touche positive. Merci d'avoir participé à cette émission et de nous avoir éclairé au sujet des objectifs du millénaire qui seront évalués, je le rappelle, en septembre prochain par les Nations Unies. Nous recevons à présent Yves Kengen, directeur de la communication du Centre d'Action Laïque et rédacteur en chef du magazine Espace de Liberté. Bonsoir.
Bonsoir.
Yves Kengen, le dossier du mois de mai est justement consacré aux objectifs du millénaire. Alors que peut-on trouver dans ce dossier?
Eh bien, d'abord un article par objectif. Vous savez qu'il y a 8 objectifs, ça je pense qu'on l'a rappelé dans l'émission. Sous le titre de « Dossier Millennium, Goal ou pas ?» Donc à savoir si les objectifs ont été atteints ou non. Et on a fait un article par objectif pour les passer tous en revue. Et on voit globalement que on est un peu loin du compte.
Qu'est-ce qui a présidé au choix de ce thème pour un dossier dans un magazine du Centre d'Action Laïque? Quel est le lien avec la laïcité en fin de compte?
Ah, c'est une très bonne question. Je vous dirais que parmi les valeurs qu'on a l'habitude de souligner comme étant des valeurs laïques fondamentales, je pense qu'il y a l'égalité et la solidarité. Et que l'égalité, elle est loin d'être un fait réel dans ce monde. Quant à la solidarité, je pense que nous avons un devoir de solidarité vis-à-vis des populations du Sud notamment, mais aussi des moins nantis parmi les populations du Nord, ce que les objectifs du millénaire visent également.
Alors, ce magazine Espace de Liberté, c'est un magazine bien connu de nos auditeurs, mais rappelons toujours, où peut-on le trouver?
Eh bien, on peut le trouver au CAL en s'abonnant. Pour la somme ridicule de 20 euros par an, ça veut dire 2 euros par numéro de 84 pages, on n'est franchement pas volé. Il est distribué dans certaines librairies, mais le plus simple, c'est vraiment de s'adresser au CAL et de s'abonner sur le site laïcité.be, onglet Espace de Liberté, c'est très facile.
Ajoutons que ce dossier spécifique est illustré par un illustrateur particulièrement original. De qui s'agit-il?
Alors, c'est Olivier William, que j'aime beaucoup, qui fait des illustrations très très originales effectivement, qui nous a même créé un petit personnage, un espèce de Superman du millénaire qui joue les justiciers mais en même temps qui joue un peu le rôle du défenseur du méchant comme de l'orphelin, quoi. Voilà, c'est un peu ambigu, c'est très drôle. C'est l'ancien affichiste du théâtre de poche, Olivier William.
À retrouver donc dans ce numéro du mois de mai d'Espace de Liberté, dont le dossier est consacré aux objectifs du millénaire. Yves Kengen, merci de nous avoir rejoints en studio.
Avec plaisir.
Pour nous parler de ce numéro. Merci à vous évidemment de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour une nouvelle édition de Libre Ensemble qui sera consacrée à la question de la mémoire et des identités. Vaste programme. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.